Bonsoir à tous et bienvenue comme chaque semaine à l'écoute de Alter Echo, Olivier au micro. Vous le savez, mais je vous le répète, Alter Echo, c'est tous les mercredis soirs à 22h. La rediffusion, c'est tous les vendredis après-midi à 14h. Vous pouvez également retrouver l'émission sur son site internet www.multimania.com/alterecho en un seul mot et avec CH. Et vous pouvez également écouter l'émission en direct ou en rediffusion via le site de Campus sur internet. Cette semaine, les suites de deux sujets qui avaient déjà été abordés dans le cadre de cette émission. Tout d'abord, l'uranium appauvri qui finira peut-être par avoir la peau d'un de ses principaux détracteurs, le journaliste Michel Collomb. Michel Collomb a un cancer qui semble avoir des causes tout à fait radioactives. Nous écouterons des explications détaillées. Nous allons aussi reparler de Révélation, un livre choc sur le blanchiment institutionnalisé de l'argent noir des mafias. Ses auteurs étaient à Bruxelles la semaine dernière, l'occasion rêvée de faire le point sur l'évolution du scandale du clearing. Au tout début de cette année, j'avais interviewé le journaliste Michel Collomb à l'occasion du 10e anniversaire de l'embargo en Irak. À cette occasion, il avait notamment parlé des ravages qu'avait fait dans ce pays, mais aussi en Yougoslavie, l'uranium appauvri contenu dans certaines munitions utilisées par les armées occidentales. Début mars, j'avais également consacré un large dossier au grand colloque sur l'uranium appauvri qui avait eu lieu à Bruxelles à l'initiative du même Michel Collomb. Aujourd'hui, l'uranium semble avoir décidé de prendre sa revanche. Comme l'écrivait De Morgan la semaine dernière, l'homme qui rassemblait des preuves contre l'uranium appauvri est sans doute devenu lui-même une pièce à conviction. Il y a quelques semaines, les médecins constataient chez Michel Collomb un cancer du rein et décidaient de l'opérer et de procéder à des analyses approfondies. Les résultats sont étonnants. Il s'avère que le corps de Michel Collomb contient des traces de trois substances fortement radioactives.
J'ai été opéré d'un cancer du rein, on m'a enlevé le rein droit il y a une semaine ici dans cet hôpital. L'opération a bien réussi et on recommence à me remettre tout en étant fatigué de cette opération. Il n'y a pas, jusqu'à présent, on n'a pas constaté des métastases, donc une exportation du cancer dans d'autres organes. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que on a procédé à des tests pour voir si j'avais été contaminé à l'uranium. Et effectivement, on vient de trouver le laboratoire de médecine nucléaire de cet institut Bordeaux, qui est parmi les plus spécialisés en Belgique avec des instruments de pointe, a effectivement trouvé par ce qu'on appelle la spectrographie de masse des traces de césium 134, 137 et 144, c'est-à-dire trois produits de fission, comme on dit, de l'uranium 235. L'uranium 235, c'est le combustible employé dans les centrales nucléaires pour produire ces réactions. Et c'est quelque chose qui est tout à fait différent et des milliers de fois plus nocif que ce dont on nous a parlé d'uranium appauvri. Il ne faut plus employer ce terme d'uranium appauvri qui est là pour donner l'impression que c'est un uranium pas dangereux. En réalité, ces déchets de centrales nucléaires sont extrêmement dangereux. Ils provoquent des dégâts dans les organes du corps où ils vont se fixer. Et donc, on pense que les médecins pensent que ces produits, je les ai inhalés lors des voyages que j'ai effectués en Irak en 93, en Yougoslavie. Je me suis rendu plusieurs fois. J'ai été pendant la guerre, pendant les bombardements en mai 99, avec, ça s'appelait 15 Belges sous les bombes de l'OTAN. On en a fait une cassette vidéo d'ailleurs, avec l'historienne Anne Morelli, le sculpteur Marc Imbers, des syndicalistes, des jeunes, des médecins. Nous avions été voir ce qu'était vraiment la guerre contre la Yougoslavie. Donc nous avons visité des sites comme des hôpitaux et autres qui avaient été bombardés. Et donc, il y a deux, je suis également allé plusieurs fois après seul pour des reportages en Yougoslavie. J'ai été 3 fois au Kosovo, la dernière fois pour réaliser un film documentaire qui s'appelle Les damnés du Kosovo, qui montre que la situation là-bas maintenant est absolument catastrophique pour les Serbes, mais aussi les Roms, gitans comme on dit parfois, et toutes les autres minorités nationales qui ont été chassées du Kosovo. Et donc, il y a deux possibilités en fait pour que j'ai été contaminé à l'uranium lors de ces voyages. Comme pour les autres personnes, ce sont les deux possibilités les plus graves, les plus fréquentes, et dont les experts officiels ne parlent jamais. La première, c'est d'inhaler une particule d'uranium. C'est 1000 fois moindre qu'un grain de sable. Donc, avec un peu de vent, vous inhalez ça très facilement. Et cette particule peut aller se mettre dans n'importe quel point de votre corps et provoquer là des dégâts et commencer à détruire des autres cellules et former des cancers, des leucémies et toutes sortes de maladies et de déformations. L'autre manière d'être contaminé, c'est par la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que cette poussière dont je viens de parler pénètre évidemment dans le sol, dans les légumes, même dans la nappe phréatique et donc dans l'eau. Évidemment, quand vous allez dans ces régions, surtout moi j'étais reçu partout où j'allais, et donc j'ai mangé les salades, les légumes, j'ai bu l'eau locale. Et donc c'est cette deuxième façon dont on peut se trouver contaminé. Les conséquences pour moi sont assez graves. Ça veut dire que on a constaté que j'avais de ces produits radioactifs, non seulement dans le rein droit qu'on m'a enlevé, mais aussi dans le rein gauche qui reste, et dans la glande thyroïde qui joue un rôle très important dans le fonctionnement de l'organisme. Les conséquences, ça veut dire que je suis menacé, je suis en sursis permanent de cancer. Ça veut dire que n'importe où, des cancers peuvent se déclarer à n'importe quel moment, dans n'importe quel organe. Et que je vais donc, dans les mois et les années à venir, devoir être sous surveillance constante et peut-être un jour de nouveau être opéré et passer par ces choses-là. Ça, c'est quelque chose qui me met dans une colère énorme. Vous pouvez imaginer quand vous devez annoncer une nouvelle pareille à vos enfants. Moi, j'ai deux filles de 21 et 23 ans. Quand vous devez annoncer à votre famille que leur père, qui était en très bonne santé, qui était encore jeune, qui était parti pour avoir une bonne vie en forme longtemps, va devoir maintenant être en sursis permanent avec des choses pareilles. Et pour un militant, en plus, pour quelqu'un qui avait beaucoup de choses à faire, c'est très très dur. La colère que j'ai contre les gens de l'OTAN qui sont responsables de ça, parce que ils savent très bien, les chefs de l'OTAN, les responsables de l'industrie militaire et de l'industrie nucléaire qui ont fabriqué ces armes à l'uranium, savaient que ces produits n'étaient pas du tout de l'uranium appauvri, inoffensif, mais des déchets. Simplement, ces déchets nucléaires, ça leur coûte très cher. Et donc la meilleure façon de s'en débarrasser, ou bien ils les recyclent, ils les retraitent, ça coûte horriblement cher, tout le monde sait ça, ou bien ils s'en débarrassent gratuitement en les jetant sur des pays. Donc c'est ça qu'ils ont fait, ils savent ça depuis longtemps, il y a plusieurs livres qui montrent que les autorités américaines connaissaient les dangers de ce qu'ils ont fait, mais que pour des raisons économiques, ils se sont quand même débarrassés de ces dizaines de tonnes de déchets nucléaires dont ils ne savaient pas quoi faire, et des déchets, non seulement des déchets nucléaires uranium dit appauvri, mais plutonium, césium, uranium-235, tout ça. Donc la colère que j'éprouve quand je vois qu'ils ont exposé, non seulement moi, mais tous les Belges, pour commencer, j'ai fait un voyage en mai 99 en visitant la Yougoslavie avec une quinzaine de Belges, je l'ai dit. Donc ces gens, on va devoir leur dire, faites-vous examiner, faites-vous surveiller, vivez-vous aussi maintenant dans l'angoisse et vos proches. Et donc, tous les autres Belges, les journalistes, les membres d'ONG, je ne sais pas qui, et les soldats qui sont dans ces régions, sont donc aussi exposés à toutes ces atrocités commise par l'OTAN. Et la chose la plus importante, c'est que toutes les populations locales sont encore en beaucoup plus grand danger que nous, évidemment. Parce que moi, je suis allé là un certain nombre de semaines en 2 ans. Eux, ils sont là en permanence. Ils n'ont pas d'autre solution que de boire et de manger ces crasses. Et en plus, moi, j'ai de la chance, en ce sens que on a détecté par hasard la tumeur que j'avais dans mon rein. Et on a pu faire très vite les analyses. Et comme chacun sait, un cancer qu'on prend dans la première phase, on a beaucoup plus de chances de le guérir. Mais évidemment, l'opération que j'ai eue, tous les tests qu'on est en train de me faire maintenant, on a fait des tests pour voir si j'avais le cancer dans les os, dans le foie, dans les reins, dans les poumons, partout. Juste pour l'instant, on ne voit rien, c'est bien. Mais vous imaginez que toutes ces populations locales ne vont pas pouvoir faire ça. Ils n'auront aucune chance d'avoir cet examen. Ça veut dire que on détruit des populations entières parce que le pic pour les cancers, ce n'est pas maintenant. 2 ans, c'est un délai encore très tôt. Il va y en avoir de plus en plus dans les années à venir. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être des dizaines de milliers de cancers et d'autres maladies, parce qu'il n'y a pas que celles-là, qui vont se déclarer dans ces populations et que les enfants seront les plus grandes victimes parce que c'est chez les enfants que les cellules cancéreuses se développent beaucoup plus vite parce qu'ils sont en croissance. Donc je pense que quand on réfléchit à tous ces phénomènes-là, la conclusion de n'importe quel homme sensé dans le monde, c'est que les chefs de l'OTAN sont des monstres. Je pèse mes mots, ce sont des monstres. Ce sont des criminels de guerre. Ils nous avaient déjà menti en nous disant que c'était une guerre propre alors qu'ils bombardaient des usines, des écoles, des hôpitaux, ils ont tué 2000 civils. Ils nous avaient déjà menti en nous disant que c'était une guerre humanitaire alors que c'était uniquement pour mettre la main basse sur la Yougoslavie, sur les Balkans, sur les routes de pétrole, donc une guerre économique et stratégique pour les intérêts des multinationales. Ils nous avaient menti sur tout ça, et maintenant il est très clair qu'ils ont menti aussi sur l'uranium, qui n'arrête pas de nous mentir depuis 10 ans, en racontant que c'est sans danger, en payant des experts pour dire des imbécilités, alors qu'en réalité c'est un danger qu'on ne mesure pas encore pour toutes ces populations là-bas. Je voudrais que ce qui m'arrive serve aussi à chacun, à chaque personne progressiste, à prendre conscience qu'il faut se battre tout de suite pour arrêter immédiatement toutes ces armes à uranium appauvri. Alors, il faut non pas seulement les suspendre, il faut les interdire, il faut interdire la fabrication, il faut les détruire aux frais de ceux qui les ont lancés, bien sûr, et que ça doit être l'occasion de réfléchir aussi, que c'est pas seulement parce qu'ils ont employé ces armes épouvantables que l'OTAN sont des monstres, qu'il faut les arrêter, mais qu'il faut arrêter toute leur guerre et qu'il faut vraiment lancer un grand débat. Quelles sont les vraies raisons pour lesquelles l'OTAN a fait ces guerres? Ce sont des raisons dégoûtantes. Et si les moyens sont dégoûtants, ça veut dire que les mobiles, les causes étaient dégoûtantes aussi. Je pense donc que d'une mauvaise chose, il faut essayer d'en faire une bonne. Et que ce qui est très important, c'est que chacun d'entre nous se mobilise selon ses moyens et travaille contre les crimes de l'OTAN.
Michel Collomb a la ferme intention de traîner rapidement les responsables occidentaux des dernières guerres de l'OTAN devant un tribunal afin que leurs responsabilités soient reconnues et qu'ils payent les soins médicaux de toutes les personnes contaminées. On le voit, Michel Collomb est sous le coup de l'émotion et il est donc bien compréhensible qu'il attribue avec certitude sa maladie à l'uranium appauvri. Cette hypothèse est d'ailleurs tout à fait plausible, mais elle n'est pas la seule. Frédéric Laure est l'auteur du seul article qui est paru dans la presse sur la maladie suspecte de Michel Collomb, dans De Morgen en l'occurrence. C'est aussi un des seuls journalistes belges à être spécialisé dans tout ce qui concerne l'uranium appauvri. Il nous explique ce qu'il faut penser des causes du cancer de Michel Collomb.
D'abord, je pense qu'il faut être prudent, quoi, parce que on ne peut pas affirmer maintenant qu'il est bien intoxiqué à l'uranium appauvri, quoi. Ce qu'on doit, il y a des études complémentaires qui sont en route. Il faut attendre les résultats, mais de toute manière, à mon sens, les résultats vont montrer que les matières radioactives qu'on a découvertes dans les premières analyses, elles sont là, et bien là. Maintenant, quant à savoir si ça peut provenir, comme l'a laissé entendre le professeur Fröning, de Tchernobyl ou des zones contaminées à l'uranium appauvri, c'est un autre problème. Cela dit, c'est quand même intrigant. Je pense que pour trancher la question, il faudrait que les personnes qui ont accompagné Michel Colomb en ex-Yougoslavie et en Irak puissent elles aussi se faire tester. Parce que si on trouve des substances identiques à celles qu'on trouve chez Michel, chez toute une série de personnes qui ont voyagé dans les mêmes zones, à ce moment-là, ça devient très intéressant. Ça veut dire beaucoup plus. Maintenant, la question qu'on pouvait se poser, c'est quel est le rapport entre ce qu'on a trouvé chez lui, c'est-à-dire du césium 134, 137 et du cérium 144, avec l'uranium appauvri. En fait, ces produits-là sont, c'est un peu technique, hein, mais on n'y coupe pas. Ces produits-là proviennent de la fission de l'uranium 235. Alors l'uranium 235, c'est le combustible nucléaire. C'est lui qu'on utilise pour fabriquer des bombes. Et ces trois produits-là peuvent aussi provenir de la fission d'un autre isotope qui est le plutonium 239, qui est le plutonium militaire. Et tout ça n'a rien à voir avec l'uranium appauvri classique. Puisque l'uranium appauvri classique, c'est essentiellement de l'uranium 238. Bon, donc la question, c'est, on en revient toujours à ça, qu'est-ce que ça fait là? Alors, on peut avancer une hypothèse, mais bon, qui peut être infirmée à un moment ou à un autre, hein, c'est qu'il faut savoir que les stocks d'uranium appauvri utilisés par les Américains dans le Golfe, ainsi qu'au Kosovo et en Bosnie, ont été contaminés. Ce sont des stocks qui proviennent de trois usines aux États-Unis, les trois seules usines d'enrichissement de l'uranium, que sont les usines de Paducah, Oak Ridge et Portsmouth. Cet uranium appauvri qui est là a été contaminé par ce qu'on appelle de l'uranium de retraitement, qui contient notamment de l'uranium 235, et par des produits de fission nucléaire, notamment du plutonium. C'est démontré aujourd'hui, hein. Même les autorités américaines le reconnaissent, et le personnel qui travaillait sur ces sites et qui, parmi lesquels il y a un taux de cancer absolument incroyable, ces gens ont été indemnisés par le ministère à l'énergie aux États-Unis. Donc ça n'est plus du tout contesté. Et on sait que ces stocks-là ont été utilisés dans le Golfe et ont été utilisés dans les Balkans. Alors, la contestation, elle intervient où? Eh bien, elle intervient au niveau de la dose. C'est-à-dire que les Américains disent, oui, c'est vrai, nos stocks sont contaminés, notamment par du plutonium, mais les quantités sont tellement infimes qu'elles ne peuvent pas produire de dommages à la santé. C'est la version admise. Non seulement par le Pentagone, mais aussi par l'Organisation mondiale de la santé, par les experts du traité Euratom, aussi par le programme environnemental des Nations unies. Voilà. Quand on lit leur rapport, ils sont d'accord avec ça. Seulement, ce qu'il faut signaler, et ça c'est très important, c'est qu'il y a quantité de scientifiques dans le monde. À commencer par l'ancien prix Nobel de physique, l'américain Mueller, jusqu'au professeur Durakovic, qui s'occupe des vétérans américains, en passant par le découvreur du plutonium, John Goffman, ou d'autres grands scientifiques comme Templin, Giesemann et beaucoup d'autres. Ces gens-là, dit, ou Rosalie Bertell, qui était la conseillère de Jimmy Carter, ces gens-là, qui sont des scientifiques de très haut niveau, disent, ce n'est pas vrai que une dose de plutonium, par exemple, très faible et sans danger. Eux, ils affirment, sur base d'études et de recherches qu'ils ont menées, qu'il n'existe pas de dose sûre, que la quantité la plus infime de produits de fission nucléaire produit des dommages au corps humain. Alors là, c'est une bataille d'experts, évidemment. Qui a raison? Bon, moi, je ne suis pas scientifique, hein. Moi, mon job, c'est, je suis journaliste, je peux dire oui, mais le problème, c'est que quand on lit les rapports de l'Organisation mondiale de la santé ou du programme de l'environnement des Nations unies, ces gens-là, ils doivent fournir une réponse à l'opinion publique qui est inquiète. Eh bien, ces gens-là, ils ne gardent que l'avis de ceux qui disent que les doses faibles ne sont pas dangereuses. Et toutes les études et tous les travaux scientifiques qui affirment que les plus petites doses peuvent malgré tout provoquer des dangers à la santé, ils n'en tiennent pas compte. Alors, ils n'en tiennent pas compte pourquoi? Bon, là, on entre dans le procès d'intention, quoi. Mais on peut, justement, c'est la bonne question. Pourquoi est-ce que ces organismes-là, qui sont soi-disant indépendants, passent sous silence toutes ces études scientifiques qui embêtent évidemment énormément les autorités, pas seulement américaines d'ailleurs, hein, tous les pays qui développent des armements du type uranium appauvri sont très embêtés par ces études-là, hein. Les Français également. Chaque fois que vous avez un problème sanitaire, c'est toujours la même histoire, quoi. Bon, si vous vous souvenez du problème de l'amiante, bon, ben, pendant des années, on a dit l'amiante, c'est pas dangereux. Et puis, il y avait les experts qui disaient, mais si, c'est dangereux. Et ceux qui disaient, mais non, c'est pas dangereux. Et puis, aujourd'hui, tout le monde sait bien que c'est dangereux. Mais en attendant, ça a fait un paquet de morts. Bon, la vache folle, c'est la même chose. La dioxine, c'est la même chose. Bon, maintenant, c'est l'uranium appauvri. Peut-être que dans 20 ans, tous les scientifiques du monde diront, mais bien sûr que c'est dangereux. Si ça vient de Tchernobyl, à ce moment-là, on a un très très gros problème de santé publique en Belgique, hein. Si un citoyen belge peut se retrouver avec du césium-137 dans les reins dû à Tchernobyl, il est temps de s'inquiéter. Sérieusement, il y a des gens, enfin moi je connais un monsieur bon, qui est contesté, hein, il s'appelle Maurice Eugène André. Il était militaire, officier de carrière à l'armée belge et responsable de toutes les questions nucléaires pour l'armée belge. Bon, lui, il affirme que lors de la catastrophe de Tchernobyl, grâce à un appareil de mesure, il a détecté des quantités extrêmement importantes de plutonium dans l'air de la ville où il habite, c'est-à-dire visé près de Liège. Bon, voilà, hein, l'histoire du nuage de Tchernobyl, il ne devait pas passer la frontière française à un moment, hein. Ah oui, bon. Donc, de toute façon, dans tous les cas, c'est extrêmement inquiétant. Parce que si ça vient des zones contaminées, ben, il y a beaucoup de soucis à se faire pour les populations qui vivent là-bas. Si ça vient de Tchernobyl, c'est encore plus grave pour la santé. Maintenant, est-ce qu'il y aurait une troisième possibilité? Franchement, je n'en sais rien. Je ne vois pas très bien à la suite de quoi on pourrait avoir des isotopes aussi radioactifs que le césium-137 dans les reins. En dehors d'une explosion d'une centrale nucléaire ou d'une exposition à des armes radioactives comme l'uranium appauvri. En fait, par exemple, bon, il faut savoir que le point de vue américain est celui qui est le plus largement partagé, hein, parce que le Pentagone a fait énormément d'études sur le sujet, et il y a un grand spécialiste au Pentagone qui s'appelle, qui est le colonel Dixon, et qui est responsable de toute la problématique syndrome de la guerre du Golfe. Et lui n'a jamais pratiqué d'études sur des militaires américains qui ont été, enfin, qui ont des problèmes de santé, qui sont atteints du syndrome de la guerre du Golfe, et qui ont respiré potentiellement l'uranium appauvri. Ils n'ont jamais fait d'études sur ces gens-là, alors qu'il y en a des dizaines de milliers, parce qu'ils disent, de toute façon, ça ne sert à rien de faire des études, parce que la quantité d'uranium appauvri qu'ils ont pu respirer sur le terrain est tellement faible que ça ne peut pas venir de là. Donc faire des études, c'est perdre du temps et de l'argent. Voilà. Moi, je ne suis pas scientifique, moi, je ne suis pas capable d'aller discuter avec un docteur en sciences nucléaires et de lui dire qu'il a tort. Moi, tout ce que je peux faire comme journaliste, c'est de dire qu'en face, il y a d'autres scientifiques aussi importants que lui. John Goffman, c'est quand même le type qui a découvert le plutonium. C'est pas n'importe qui, hein. Et bon, et ces gens-là, depuis 50 ans, ils disent attention, danger. Ce que je vous explique là, en fait, le fait qu'une particule radioactive à l'intérieur du corps humain émet des rayons alpha, hein, et ces rayons alpha détruisent les cellules et à terme produisent des cancers. Bon, ce phénomène-là, on l'appelle l'effet de proximité, parce qu'il y a proximité entre la particule radioactive et les cellules vivantes. Bon, eh bien, cet effet de proximité, il est connu des Américains depuis le milieu des années 50. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans leurs documents, hein. Et aujourd'hui, il y a plus quoi, quelques semaines, quand l'OMS doit sortir un rapport sur ce problème-là, eh bien, elle ne dit pas il n'y a pas un mot sur toutes ces études-là. Donc, alors la question qu'il faudrait leur poser, c'est dire, mais monsieur, pourquoi ne tenez-vous pas compte de l'avis du type qui a découvert le plutonium? Voilà, le problème, c'est que les gouvernements européens qui avaient demandé des comptes aux Américains, les Américains, ils sont venus, ils leur disent, messieurs, tout ce qu'on vous raconte, c'est pas vrai. L'uranium appauvri, c'est pas dangereux. Bon, alors, là-dessus, les Européens, ne sachant pas quoi, n'ayant pas tellement confiance dans les Américains, finalement, ils disent à l'OMS ou au programme des Nations Unies pour l'environnement, ou aux experts européens d'Euratom, messieurs, vous, qu'est-ce que vous dites? Et ces gens-là, ils disent exactement comme les Américains. Alors, pourquoi? Ben, parce que nous, on le démontre dans le livre, l'OMS est complètement infiltrée par le lobby nucléaire. Il faut savoir que l'OMS a des accords avec l'AIEA, donc qui est l'Agence atomique internationale, et l'OMS ne peut pas soulever un problème de santé publique. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans leurs documents, hein, ça date de 56. Ils ne peuvent pas soulever de problème de santé publique lié au nucléaire sans avoir reçu l'aval de l'AIEA. Mais l'AIEA, ils sont là pour faire la publicité du nucléaire. Donc ils n'ont jamais la possibilité d'en parler. Et c'est à ces gens-là qu'on demande un rapport. Ben donc forcément, leur rapport, c'est une mascarade.
Je rappelle le titre du livre de Frédéric Laure, Uranium appauvri, la guerre invisible, co-signé avec Martin Messonnier et Roger Trilling, est paru en février dernier aux éditions Robert Laffont. Et enfin, merci à Hans Hout d'Indymedia Belgique qui a réalisé ces deux interviews. Il y a quelques semaines, je vous parlais du livre Révélation de Denis Robert et Ernest Baquès. L'un est un journaliste français spécialisé dans les affaires de fraude financière. L'autre est un ancien cadre de Cedel, une société de clearing luxembourgeoise qui s'appelle aujourd'hui Clearstream. Une société de clearing, en deux mots, c'est une institution financière qui a pour clients d'autres institutions financières internationales et qui solde pour ses clients les comptes qu'ils ont entre eux. Chaque transaction financière internationale est donc enregistrée et la société de clearing se charge de déterminer qui doit combien à qui au terme des millions de transactions financières internationales qui sont effectuées chaque jour. Avant l'ère des ordinateurs et de la communication instantanée, ces compensations internationales prenaient beaucoup de temps et freinaient les circuits monétaires internationaux. Aujourd'hui, tout cela se fait en un clin d'œil. Il n'existe que trois sociétés de clearing, Clearstream à Luxembourg, Euroclear à Bruxelles et Swift également à Bruxelles, mais cette dernière est plutôt une société de routage financier pour les transactions de particuliers. Ce que révèlent Denis Robert et Ernest Baquès dans leur livre, c'est que depuis 1990, soit depuis l'accession au pouvoir d'André Lucy, l'actuel patron de Clearstream, la société luxembourgeoise gère des comptes non publiés plutôt suspects. Normalement, chaque compte non publié est relié à un compte officiel publié, mais actuellement, ce ne serait plus le cas et même des multinationales non financières en posséderaient, ce qui est interdit. Les comptes non publiés sont légaux à la base puisqu'ils servent à solutionner certains problèmes techniques. Seulement, depuis 1990, leur nombre a explosé et ils ont servi de plus en plus à des opérations aussi discrètes qu'illégales liées au blanchiment d'argent d'organisations mafieuses. Au passage, les auteurs constatent à quel point l'économie légale est infiltrée jusqu'à la moelle par les organisations mafieuses et ils soupçonnent des institutions légales et réputées respectables de complicité active, voire passive. Passive, voire active, disons. Dans la foulée, on s'est rendu compte aussi que toutes les transactions financières internationales transitent par un nombre de points très limité et qu'elles sont donc facilement contrôlables. Cette constatation intéresse au plus haut point l'organisation ATTAC, qui milite pour une taxation des transactions financières afin de limiter la spéculation et de constituer ainsi un fonds mondial de lutte contre la pauvreté. Tous les experts sérieux, entre guillemets, affirmait qu'une telle taxe serait impraticable en raison du nombre et de la disparité des transactions financières, et on s'aperçoit qu'il n'en est rien, tout est enregistré, consigné et centralisé, et la taxe serait donc très facile à lever. Ce n'est donc pas étonnant que ce soit ATTAC qui ait fait venir la semaine dernière Denis Robert et Ernest Baquès à Bruxelles pour parler de leur livre. Parlons-en de ce livre. Au départ, la presse l'a accueilli de façon plutôt froide et sceptique. Quand on en parlait, c'était du bout des lèvres. Le Monde, notamment, a consacré pas mal d'énergie à le discréditer au moment de sa sortie. Côté politique, l'enthousiasme était plus grand. Robert et Baquès ont été entendus par une commission de l'Assemblée nationale française et par un groupe de travail du Parlement européen. Mais c'est finalement le monde judiciaire qui a sonné le branle-bas de combat. Le parquet luxembourgeois a officiellement ouvert une enquête sur les activités de Clearstream et André Lucy, le patron mis en cause, et deux de ses proches collaborateurs ont été écartés de leurs fonctions par le conseil d'administration le 15 mai dernier. Tout doucement, l'opinion commence donc à se rendre compte de l'ampleur que pourrait prendre cette affaire. À titre indicatif, Clearstream traite chaque jour un montant de 8 000 milliards de dollars, de francs belges, pardon. On comprend dès lors que si affaire il y a, le scandale de la Cabelux fera figure de petite incartade de gamin à côté de l'affaire Clearstream. Jeudi dernier, les deux auteurs de révélations étaient donc à Bruxelles. Excepté la bonne couverture faite par le JT de la RTBF, la grande presse en a parlé de façon plutôt elliptique lorsqu'elle en parlait. Devant cette carence de l'information officielle, je suis allé interviewer les deux auteurs, même manque de bol, Denis Robert avait dû quitter Bruxelles au pas de course pour aller faire face à une plainte contre son livre à Paris. Il ne restait donc qu'Ernest Baquès, le banquier luxembourgeois, qui a heureusement la langue bien pendue. J'ai commencé par une question sur le clearing. Ah, un petit instant, problème technique.
En
Le
fait,
voilà.
c'est donc un système qui permet aux banques du monde entier de effectuer très rapidement et oui, disons en un clin d'œil et presque virtuellement des transactions qui avant prenaient fort longtemps. Est-ce qu'à ce titre-là, on pourrait dire que c'est le clearing qui a inventé, qui a lancé ou qui tout au moins a permis la mondialisation financière à laquelle on assiste aujourd'hui et le tourbillon financier qui va avec?
C'est exact. Si on cherche le lieu où s'est créé, où se sont créées les bases même de la mondialisation, il faut dire que c'est dans ces systèmes de compensation, ces chambres de compensation internationales, qu'il y avait le meilleur accès à l'information qu'il fallait pour mondialiser. comme on l'a vu dans ces 2 dernières décennies, parce que dans ces systèmes supranationaux, vous avez l'accès à la répartition des tranches de capital disponibles aux grands acteurs de marché. Et c'est les gens qui dirigent un tel système qui peuvent, théoriquement, mais je crois que c'est ce qui s'est passé dans, pas seulement en théorie, mais en pratique. Ça a été mis en pratique à partir de ces systèmes de clearing et beaucoup de fusions de ces 2 dernières décennies, à mon avis, sont nées et ont été initiées à partir de ces systèmes de clearing.
Comme corollaire du fonctionnement des systèmes de clearing, on a un endroit à peu près centralisé, disons 2 ou 3 endroits, où se retrouvent toutes les transactions financières au monde, ou à peu près. C'est pour ça d'ailleurs que Attac vous a pris sous le bras pour faire aussi un peu la promotion de votre livre. Finalement, quand on regarde comment fonctionne le clearing, on se dit que la taxe Tobin existe, sauf qu'elle ne bénéficie pas au tiers-monde, mais elle bénéficie à Clearstream et à Euroclear.
C'est une bonne définition de la taxe Tobin. Non, là, vous voyez juste, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment les endroits où on peut, si on veut vraiment, encaisser une taxe Tobin, c'est là qu'il faut le faire, mais je dirais qu'il faut aller au-delà de ces 3 systèmes de compensation internationaux et également encaisser auprès des chambres de compensation nationales. Parce que là aussi, une bonne partie, c'est bien sûr pas les transactions transfrontalières que vous taxerez là, mais si vous voulez taxer toutes les transactions des marchés, il faut pas oublier les marchés nationaux.
Enfin, moi, ça lève quand même déjà de sérieuses hypothèques qu'on pense en général qui pèsent sur la taxe Tobin. Ça lève déjà de sérieux problèmes techniques qu'on reproche en général à la faisabilité de la taxe Tobin.
Non, elle est tout à fait faisable. Je crois que jusqu'à présent, la raison pour le secteur bancaire et financier de s'opposer à l'encaissement de cette taxe, c'était plutôt que eux, ils savaient depuis toujours qu'il serait facile de l'encaisser. Mais ce qu'ils nous ont caché ou dissimulé, c'est les volumes réels du marché. Parce que je dis que les statistiques établies par ces systèmes de compensation sont tout à fait gonflées. Parce que on agit suivant le vieux principe de Churchill. Moi, je crois seulement dans les statistiques que j'ai falsifiées moi-même. Et dans ces systèmes-là, je peux vous assurer qu'on y a forcé un peu le rythme, parce que les statistiques, c'est un argument de marketing, c'est un argument qui n'est jamais que vous n'êtes pas obligé de prouver par après dans vos bilans. Et c'est pour ça que, étant un argument de marketing, on a fait de l'excès de zèle en publiant des statistiques surgonflées. Et pour preuve, je veux le fameux cas de 1,7 trillion d'euros de bulles d'air comptabilisées dans le système Clearstream avant même que notre livre apparaisse, ce qui a été à la une de tous les grands journaux financiers de par le monde au tout début de cette année.
Pour en venir à votre livre, la révélation majeure, c'est finalement l'existence de ces comptes non publiés, qui en soi ne sont pas nécessairement comment dire, un délit, mais qui peuvent devenir l'instrument de choses tout à fait inavouables, comme par exemple des délits d'initié, du blanchiment d'argent, etc. En tant que Béotien, on a un peu du mal à imaginer qui se sert de ça, comment ça fonctionne, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer en 2 minutes ce qu'on doit imaginer en entendant ça?
Oui, il n'y a plus de présomption d'innocence à partir du moment où on constate, comme nous venons de le constater dans la dernière liste des comptes qui nous étaient accessibles, qui datent d'avril, mai, 2000, que dans ces comptes non publiés, vous trouvez des comptes qui ne sont plus dépendants d'un compte, principal, c'est-à-dire, qui sont des unités fonctionnant uniquement dans l'angle mort de l'économie mondiale représentée par ce secteur parallèle créé dans le système Clearstream. On mentionne toujours la même banque comme exemple, mais il y a des dizaines d'exemples analogues. C'est l'exemple de la banque mafieuse russe, la MENATEP, qui ne dispose pas d'un compte normal, un compte publié dans les systèmes de clearing. Mais on connaît l'affaire du Kremlin Gate, dans laquelle la banque Menatep a été impliquée. Et lorsqu'on voit que toute cette affaire sur les fonds dérobés en quelque sorte aux fonds monétaires internationaux, dans cette affaire, c'est par cet angle mort qu'est certainement passé une bonne partie de ces fonds.
Et en clair, quels sont les délits financiers qu'on peut opérer grâce à cet instrument?
Tout est pensable. Donc, on peut imaginer toutes sortes de possibilités. Nous n'avons pas, par notre livre, voulu dénoncer des cas particuliers. Nous avons voulu décrire un système de dissimulation qui peut cacher, entre autres, des opérations de blanchiment. Or, nous voulons laisser au juge le soin de s'intéresser à ce système de dissimulation pour prouver par les détails à recueillir par les juges qu'il y a entre autres des opérations de blanchiment de toutes sortes de capitaux de nature douteuse qui se réalisent sous ce titre ou sous ce chef de compte non publié.
Juste un exemple anecdotique, la multiplication de ces comptes non publiés aurait permis le passage à l'euro de toutes les fortunes mafieuses qui seraient d'ores et déjà faites.
Oui, comme l'euro scriptural existe déjà depuis quelques années, on peut imaginer que ce système parallèle et occulte est servi au passage vers l'euro scriptural et qu'on ne détectera plus à la fin de cette année-ci les capitaux mafieux qui, depuis longtemps, sont déjà sous nature euro scriptural, mais aussi lavés sous d'autres formes.
Finalement, au-delà des technicités, la révélation du bouquin, c'est le fait que tout le système financier international est pris en otage par les infiltrations mafieuses, qui ne sont même plus que des infiltrations, qui sont finalement en train de devenir la colonne vertébrale de ce système financier international.
Oui, depuis 2-3 décennies, on ne sait plus faire le partage entre finances parallèles, finance mafieuse donc, et la finance tout court. Et on ne peut pas accuser les banques aujourd'hui de ne plus faire la distinction, parce que la distinction, ils ne peuvent déjà plus la faire depuis bien longtemps. Les courants parallèles se sont mêlés au courant de la finance depuis trop longtemps déjà, et le système a duré trop longtemps pour faire marche arrière à l'heure actuelle. Donc, on doit continuer pendant un temps encore à vivre ce qu'on vit. Mais connaissant maintenant les endroits où on doit être plus vigilant et où il faut introduire, à mon avis, un contrôle public international et ne plus laisser à des réviseurs indépendants, soi-disant indépendants, mais payés par les firmes pour les contrôler, ce type de contrôle, pour ce qui est des chambres de compensation internationales, doit, à mon avis, être confié à une autorité publique à caractère international, pour que le pouvoir public et pour que le commun des citoyens ait de nouveau le contrôle d'une institution devant être surveillée démocratiquement.
Donc on le voit, les révélations dans votre livre homonyme sont vraiment énormes puisqu'elles remettent en cause le système financier international. Moi, j'avais découvert la publication de votre livre dans le magazine Technicard où le journaliste analysait ça de la façon suivante. Soit ça va tomber à plat parce que c'est pas fondé, soit ça va éclater et le système va vaciller, soit, et c'est le plus probable, ce qui va se passer, c'est que finalement, on va pas en entendre parler parce que c'est trop gros pour passer. Ce qui est en train de se passer, c'est un peu entre les deux finalement. On en parle un petit peu, mais on a eu du mal à démarrer. Donc, quelles ont été les réactions dans la presse, etc.?
Les réactions de début, je crois qu'on a dépassé entre-temps le stade vraiment difficile où il y avait trop peu de gens qui avaient lu le livre et il y avait au départ trop de gens qui commentaient déjà un livre qu'ils n'avaient pas lu. Entre-temps, on remarque que de plus en plus de gens ont lu le livre, ont compris qu'il ne s'agissait pas de ce que les premiers articles ont fait croire que c'était et que le vent commence à tourner en notre faveur, alors que je crois que y a une journaliste anglaise qui m'a dit dernièrement, après avoir lu le livre, je comprends que ce livre-là doit créer vraiment la pagaille dans le monde des finances, mais je suis convaincu, me dit-elle, que votre livre survivra et sera un ouvrage de référence, duquel on dira dans 30 ans qu'il aura été le livre qui aura bouleversé la finance mondiale, vers l'an 2000.
Comment est-ce que vous expliquez des réactions hostiles, comme par exemple celle du Monde qui vous a accusé d'erreurs factuelles et que tout ça ne tenait pas debout finalement, et Libération qui est plus ou moins silencieuse sur l'affaire?
Ben, Libération a quand même eu des pages entières.
Ils ont publié votre portrait, mais c'est à peu près. Ils n'ont pas fait grand-chose de plus, il me semble.
Oui, peut-être, mais je crois que il faut pas oublier qu'au départ, il y avait des initiatives prises par Lucie et nous avons vu
Donc
aujourd'hui.
Lucie, c'est André Lucie, le
André Lucie,
président de Clearstream, qui a été mis en veilleuse pendant il y a 2 semaines.
oui. On m'a montré aujourd'hui, un journaliste m'a montré tout un courrier qu'il a reçu des avocats d'André Lucie, les avocats anglais, qui l'ont menacé de ne pas écrire quoi que ce soit sur notre livre. Et il a joint pour preuve à son argumentation les dépôts de plainte issus contre Denis Robert à Paris, pour preuve que ce qui leur arriverait si jamais ils oseraient publier un article. Donc, il y a une pression énorme faite par les meilleurs avocats des grandes places sur lesquelles est représenté Clearstream. Et pour l'instant, je crois qu'il y a de plus en plus de journalistes pour lesquels cette façon de procéder de Clearstream devient de plus en plus transparente et qui osent maintenant ignorer les menaces de Clearstream.
Oui, la pression judiciaire est très forte aussi, puisque c'est la raison de l'absence de Denis Robert ce soir. Vous vous attendez à des difficultés judiciaires?
Non, c'est les plaintes qui ont été déposées et Lucie procède à la façon scientologique, je dirais, parce que on tue l'adversaire en lui imposant toute une série de procès qui vont lui coûter les yeux de la tête. On nous force à engager à forts frais des avocats coûteux pour lui, il n'a pas de problème de fric pour payer les meilleurs avocats du monde, alors que nous-mêmes, on n'a encore rien gagné sur les ventes de livres, mais même si on en vend à l'heure actuelle et si les procès continuaient à affluer, on devrait déjà vendre 1 million de livres rien que pour payer nos avocats. Donc c'est une tactique qu'on avait l'habitude de voir qu'avec la scientologie. Faut renvoyer au procès que la scientologie avait intenté au magazine Time, il y a 10 ans, je crois.
Une des critiques qu'on vous fait, elle paraît justifiée de prime abord, disons, c'est que vous parlez d'une société que vous avez quittée il y a 18 ans. Seulement, ce qu'on ne sait pas souvent en adressant la critique, c'est que vous avez mis ces 18 ans à profit pour enquêter justement sur l'infiltration des milieux criminels dans la finance internationale. Qu'est-ce qui a motivé comme ça ces 18 ans d'enquête? Et puis aussi, une question que je me pose, c'est si jamais vous n'aviez pas rencontré Denis Robert, par où est-ce que ce par quel canal est-ce que ce serait sorti et est-ce que ce serait sorti?
Ce serait sorti, comme je l'ai toujours dit, après ma retraite. J'ai dû prendre une retraite anticipée pour raison de santé il y a 3 ans déjà. Et comme j'étais arrivé donc dans les conditions idéales pour vraiment sortir tout ce que j'avais appris dans ces 18 ans, j'ai profité de cette occasion parce que mon médecin m'a dit j'étais mis en retraite pour raison de santé à cause de problèmes physiques, mais psychiquement, je te confirme que tu es en forme. Faut pas chômer côté psychique, me dit-il.
Et alors, qu'est-ce qui a motivé cette enquête de 18 ans? C'est le ressentiment après l'éviction, disons, de chez Cedel qui est devenu Clearstream après?
Non, non, c'est pas une revanche que je prends sur Cedel Clearstream, parce que il faut dire que jusqu'à l'arrivée d'André Lucie chez mon ancien patron, il n'y a pas eu de la moindre dérive dans ce système que j'ai quand même contribué à créer. Si mon licenciement est à la base de ce que j'appelle ma profession parallèle acquise depuis 18 ans, de mon intérêt pour le crime organisé en milieu financier, c'est parce que lors de mon licenciement, je cherchais à trouver les raisons qui avaient poussé Seidel à me licencier, parce que Seidel n'était pas parvenu à formuler une faute grave qu'il invoquait pour mon licenciement. Alors j'ai voulu savoir, et c'est là que j'ai commencé à rechercher les vraies raisons de mon licenciement. Et comme par hasard, je suis tombé sur des affaires criminelles datant d'avant l'époque de mon licenciement, qui avait quand même passé sur mon bureau. Hein, j'ai grandement ouvert les yeux, j'ai constaté une chose, c'est que pendant les 13 ans chez Seidel, je me suis toujours axé sur les meilleures solutions techniques pour rendre ce système le plus performant possible, et que je n'avais pas pris en considération les aspects de politique financière et autres motifs qui se cachaient derrière ce type de marché conservé. J'étais donc plutôt un technicien qui ne s'intéressait pas aux détails de la politique qui se jouait dans les arrière-coulisses de la grande finance internationale. Or, cherchant d'après les vrais motifs pour mon licenciement, je tombe sur les cas concrets comme l'affaire Ambrosiano, et en procédant et en continuant mes recherches, je tombe sur toutes sortes d'affaires dans tous les continents, et je crée mes propres contacts avec le monde de la justice. Et finalement, après quelques années, je me trouve avec un cercle de vieux copains un peu partout dans le monde, d'anciens policiers, d'anciens juges, mécontents de ce qu'ils ont dû faire durant leur profession, et puis qui continuent à s'intéresser à la recherche, mais étant plus libres eux aussi et déjà en pension pour la plupart de ces contacts, j'ai accumulé énormément de faits divers sur les cas disons, les cas de criminalité financière un peu partout en Europe. C'est les affaires françaises qui ont toujours eu quelques petites ramifications sur Luxembourg, les affaires belges, l'affaire Coles, Augusta, tout ça a aussi des ramifications vers le Luxembourg. Et une fois que vous êtes dans la matière, vous recherchez, suivant le moindre détail. Lorsque dans le soir, je lisais qu'on avait découvert le nom d'un holding en Luxembourg dans telle filière, mais je recherchais après la holding pour savoir qui était les bonhommes que cachait le Luxembourg derrière qui se cachait dans le registre du commerce luxembourgeois derrière un tel holding, pour arriver peut-être à d'autres acteurs à communiquer aux juges d'instruction qui traitaient de ces affaires, parce que ces juges, pour une bonne partie, n'avaient pas l'habitude de s'orienter sur orienter leurs recherches sur la place financière de Luxembourg, parce que les autorités, très souvent, sur leurs demandes, leur donnaient des réponses évasives, alors qu'il y avait quand même bon nombre d'informations qui étaient librement accessibles, parce que reproduites dans le registre de commerce. on aurait pu sauver une bonne partie de la mise et de la critique qui n'était pas toujours injustifiée quand on disait dans les pays qui nous entourent que le Luxembourg ne collaborait pas comme il le faudrait à des enquêtes internationales, alors que le Luxembourg aurait pu mieux s'en sortir en livrant les informations qui, de toute façon, étaient accessibles au grand public.
Mais c'est un peu ça qui inquiète aujourd'hui, puisque l'enquête sur Clearstream n'est plus l'enquête officieuse d'un seul homme, c'est devenu une enquête officielle au Luxembourg, menée par un juge d'instruction. Et là, on se dit, est-ce que ce n'est pas le début de la fin? Parce qu'ils vont quand même hésiter à remettre en cause tant de choses qui sont remises en cause par ce livre. Est-ce que vous avez confiance en l'aboutissement de l'enquête?
Oui, parce que j'ai une énorme confiance en ce juge. Donc le substitut Carlos Tayan, il est substitut du procureur depuis 2 ans seulement, mais il faut savoir que c'était un très bon avocat pendant plus de 20 ans. Donc c'est quelqu'un qui se reconvertit aujourd'hui à une profession qui lui rapporte bien moins que ce qu'il gagnait en tant que vrai avocat de pointe sur la place de Luxembourg. Et je suis étonné en voyant combien il est motivé pour aller de l'avant dans cette affaire. Il faut bien sûr qu'il soit soutenu par les efforts que fait la presse internationale à l'heure actuelle, les efforts qui sont faits par ses collègues procureurs un peu partout en Europe. Là, je voudrais renvoyer sur la lettre signée ou l'article signé par Berthos van Ruymbeke, Eva Joly, Jean de Maillard et autres dans Le Monde d'il y a, je crois, à peu près 2 semaines. Je crois que cette lettre a donné un énorme appui au substitut Carlos Tsayen. Parce que on a remarqué quand même que c'est suite à cette prise de position des procureurs les plus vaillants d'Europe qu'il a trouvé le courage de lancer l'enquête définitive. Donc il faut pour l'instant toute la presse internationale, tous les magistrats d'Europe peuvent aider ce juge en déclarant ouvertement ce qu'ils ont commencé à déclarer, c'est qu'il y a matière à se creuser la tête dans la matière qu'on traite dans notre livre.
Pour terminer, une question plus personnelle. On est un peu étonné parfois par les paradoxes que vous rassemblez, c'est-à-dire que vous êtes issu à la base d'un milieu plutôt ouvrier. Vous avez aujourd'hui des idées qui étonnent parfois. Vous réfléchissez à la société sans argent, vous avez certaines idées plutôt anticapitalistes et tout. Et entre les deux, il y a, et c'est resté dans votre physique par exemple, et dans votre charme discret, le banquier luxembourgeois. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans ce monde qui finalement ne vous ressemble pas tellement, apparemment?
Oui, j'étais toujours, et je l'ai dit souvent, j'étais le philosophe égaré dans la roue de finance. Ça, j'ai bien conscience de ça et j'étais pas à ma vraie place en milieu bancaire parce que l'argent dans ma vie n'a jamais joué un rôle. Hein. Et c'est peut-être aussi mon grand problème, hein, mais je crois que c'est aussi mon grand fort de pouvoir encore réfléchir dans les temps qu'on vit à une vie sans argent. Parce que je crois que ce qui est essentiel dans toute vie d'un homme, c'est de pouvoir encore rêver. Et je crois que beaucoup de nos gens, surtout dans les milieux financiers, ils ont perdu la faculté de pouvoir rêver.
Et voilà, gardez quand même votre faculté de rêver jusqu'à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Alter Echo. La semaine prochaine, nous aurons une émission entièrement consacrée à l'affaire du trou et au dossier X et surtout aux manipulations médiatiques que toute cette affaire a entraînées. Je vous rappelle la rediffusion de cette émission-ci, vendredi à 14h. Vous pouvez également retrouver cette émission sur internet, www.multimania.com/alterecho, en un seul mot avec CH. La chanson que vous avez entendue vers la moitié de l'émission était interprétée par Butthole Surfers. Ça s'appelait Goofy's Concern sur le CD Independent Worm Saloon. Voilà, à la semaine prochaine.